Rainer Maria Rilke sur le poète. Un jour, le rapport du poète avec l'univers, son sens, me fut proposé d'une belle parabole. C'était à bord de la grande barque voile qui nous conduisait de l'île de Philae en Égypte aux importantes constructions du barrage du Nil. Nous commençâmes par remonter le fleuve et les rameurs durent s'appliquer. Je les avais tous en face de moi. Ils étaient 16, si ma mémoire est bonne, en rang de 4, chaque fois de 2 à la rame de droite et 2 à la rame de gauche. Et parfois, on rencontrait le regard de l'un ou de l'autre, mais le plus souvent, il n'y avait dans leurs yeux aucune expression. Ils étaient ouverts sur le vide. Ou bien on eût dit que les poings ou l'intérieur chaud de ces hommes, autour de quoi se tenait leur corps de métal, était à découvert. Quelquefois, levant les yeux, on surprenait pourtant l'un de ces regards pensivement appuyé sur vous, comme s'il représentait des situations qui eussent pu résoudre l'origine de cet étranger travesti. Mais à peine découvert, il perdait presque aussitôt son expression sondeuse et appliqué, éveillait un instant un grand désordre de sentiments, se concentrait aussi vite que possible. Son vigilant regard d'animal, jusqu'à ce que c'est la belle gravité du visage reprit la stupide expression du quêteur de haschich et la niaise aptitude à se décomposer et à s'avilir à volonté. En signe de remerciement, mais cet avilissement que les voyageurs portent depuis longtemps sur la conscience s'accompagnait le plus souvent d'un regard de haine dont l'éclair rappelait quelque chose, quelque complicité voisine. Plusieurs fois déjà, j'ai observé le vieux qui était accroupi à la poupe de la barque. Ses mains et ses pieds étaient rejoints en une intime confiance et entre eux allait et venait diriger et maintenu la barre du gouvernail qui avait sa tâche particulière. Le corps, dans ses vêtements sales et déchirés, ne valait pas qu'on s'y arrêtât. Mais le visage, sous le turban fatigué, dont les lambeaux étaient emboîtés les uns dans les autres, comme les parties d'une longue vue, était si plat que les yeux semblaient en découler. Dieu sait ce qu'il y avait en lui. Il semblait capable de vous transformer en quelque chose de répugnant. Oh, j'ai juste volontiers examiné plus attentivement. Mais lorsque je me retournais, je sentais aussi proche de moi que ma propre oreille. Il était malaisé de l'observer si près. De plus, le spectacle du fleuve qui venait largement à nous, ce bel espace figurant en quelque sorte un avenir ininterrompu dans lequel nous nous insérions, était si digne d'une attention continue et si bienfaisant que je délaissais le vieux et que je me mis à observer avec d'autant plus de plaisir les mouvements des jeunes hommes qui, malgré toute la violence de leur effort, n'en perdaient pas de vue la régularité. Leur effort était en ce moment si grand que ces garçons se levaient chaque fois de leur siège à l'extrémité des barres solides en les tirant à eux et qu'un pied appuyé contre la banquette avant, ils se jetaient violemment en arrière tandis que les huit barques se frôlaient un passage à travers le courant. Et en même temps, ils énonçaient une sorte de nombre pour rester en mesure. Mais leur effort était chaque fois si grand que leur voix expirait. Et quelquefois, il fallait tout simplement surmonter cette pause, mais une intrusion imprévisible que nous avions tous très particulièrement vint non seulement rythmiquement à leur secours, mais encore, ainsi qu'on pouvait le remarquer, rebroussa en quelque sorte les forces qui étaient en eux et que, ainsi soulagés, ils entamaient les premières réserves encore intactes. Ainsi, un enfant qui s'est attaqué avec ardeur à une pomme se remet à manger tout radieux en découvrant qu'une petite moitié de la pomme qu'il tient est encore intacte jusqu'à la pelure. Je ne puis à présent passer plus longtemps sous silence l'homme qui était assis sur le bord droit en avant de notre barque. Je puis finalement pressentir l'approche de son chant, mais il est possible que je me sois trompé. Il élevait tout à coup la voix à intervalles irréguliers et nullement lorsque l'épuisement régnait sur ses compagnons. Au contraire, il arrivait plus d'une fois que son chant les trouva vaillants, voire exubérants, mais il n'en était pas moins dans son droit. Il arrivait à point nommé. Je ne sais pas dans quelle mesure les sentiments de notre équipage lui parvenaient. L'ensemble était derrière lui. Il tournait rarement la tête et c'était sans conséquence appréciable. Ce qui semblait exercer sur lui de l'influence, c'était le pur mouvement qui se rencontrait dans ce sentiment avec le lointain ouvert auquel il s'était livré, mi-résolument, mi-mélancoliquement. En lui, l'élan de notre embarcation et la force de qui venait à notre rencontre s'équilibraient sans cesse. Parfois, il avait un excédent, alors il chantait. La barque surmontait la résistance, mais lui, le magicien. Il transformait l'insurmontable en une suite de longues notes flottantes qui n'étaient ni d'ici ni d'ailleurs et que chacun accueillait. Et tandis que son entourage ne cessait de s'en prendre à l'immédiat et au palpable et de le surmonter, sa voix entretenait le rapport avec ce qu'il avait de plus lointain et vous y accrochez jusqu'à ce que nous fussions entraînés. Je ne sais comment cela se fit, mais soudain, cette image me fit comprendre la situation du poète et la place et son efficacité dans le temps. Je sus que l'on pouvait tranquillement lui disputer toutes les positions, hors celle-là, mais il fallait qu'on le tolérât.